trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florence Barjou est avec nous, directrice des investissements de Crédit Agricole Assurance. Bonsoir Florence.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Adil Amor. Bonsoir Adil.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes directeur général de Shell Sure Prince Gestion et Jean-Jacques Friedman qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là, vous êtes directeur des investissements de Vega IM. Comment vous regardez Florence l'idée de ce cycle de baisse de taux devant nous? Certaines banques centrales ont commencé. Pas des moindres, hein. La Suisse, le Canada sont des banques centrales majeures quand même qui sont déjà avancées dans cette idée de baisse de taux. La Fed va entrer en jeu, la BCE va conduire une deuxième baisse de taux cette semaine. Comment vous voyez les choses se dérouler ensuite? Est-ce qu'on a face à nous quelque chose d'assez synchronisé? Ou est-ce que le rythme peut, au fur et à mesure, peut-être changer en fonction des situations économiques auxquelles chaque banque centrale fait face aujourd'hui?
Je pense qu'il va y avoir évidemment une resynchronisation avec la Fed qui bouge, puisque pour une fois, elle n'avait pas lancé le mouvement. Donc il y a ce côté synchronisation là qui évidemment va arriver. Après moi, la manière dont je vois les choses, deux points qui me semblent importants. Le premier, c'est que si on regarde aujourd'hui les pricing, les marchés de taux, j'ai l'impression qu'ils sont allés un peu trop loin en termes d'attente de baisse de taux. D'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a une grande banque américaine dont le nom commence par J qui a publié une enquête que moi j'ai trouvée amusante qui indiquait que si on regardait le pricing de récession sur les marchés obligataires, on était à une proba de l'ordre de 70%. Si on regardait le pricing de récession sur les marchés actions, on était à 9% seulement. Vous voyez, donc ça, déjà, c'est un élément intéressant parce qu'on voit bien que les marchés actions, les marchés obligations ne jouent pas tout à fait le même scénario aujourd'hui. Mais pour en revenir au cycle de baisse de taux et aux marchés obligataires, nous, notre vision, c'est quand même que sur les perspectives de croissance, bon, il y a évidemment des éléments qui sont différents aux États-Unis et en Europe, mais globalement, on est plutôt du parti normalisation, tassement de la croissance que récession. Et donc ça, je pense qu'il y a des éléments qui sont assez probants du côté des indicateurs économiques, en particulier aux États-Unis, avec une consommation qui tient bien, avec des investissements publics et privés qui sont plutôt bien orientés. Il y a toute la thématique marché du travail aussi sur laquelle on peut débattre. Mais moi, mon point de vue, c'est que, in fine, le marché du travail aujourd'hui aux États-Unis, certes, il s'essouffle un peu, mais il tient quand même globalement bien. On a encore des créations d'emplois. C'est vrai qu'on a des statistiques qui sont un peu discordantes, mais il y a une forme de fébrilité des marchés autour des rapports emploi et des chiffres de croissance globalement qui, moi, je trouve, va un peu trop loin.
On joue un peu à se faire peur, vous dites, de ce point de vue-là?
Moi, j'ai un peu l'impression, c'est-à-dire qu'honnêtement, quand on voit le degré d'attention qui est porté par les marchés au marché du travail américain,
c'est Jérôme Powell qui nous met le nez dessus. Hein.
Oui, non, mais bien sûr, on a tous en tête ce qui s'est passé au mois d'août.
Ouais.
Bon, la vérité, c'est qu'effectivement, on a des indicateurs qui sont un peu discordants sur le marché du travail, et notamment, on a des statistiques qui sont peut-être un peu moins fiables, mais les créations d'emplois sont positives. Quand on regarde les inscriptions au chômage, en fait, je crois qu'en moyenne, sur les trois derniers mois, on doit vibrer autour de 230, 250 à la louche. Bon, historiquement, on est plutôt sur 350 en moyenne, donc ça se passe bien. Taux de chômage autour de 4,3, je crois. Bon, c'est plein emploi.
Oui, bien sûr.
Bon. Voilà, donc oui, ça s'essouffle, mais pas d'inquiétude majeure. Et donc, quand on a eu un marché de taux qui disait, même en intra-réunion, baisse de 50 points de base de la taux,
on a toujours peur de ce mouvement de rupture qui peut arriver sur un marché du travail, quand bien même il serait encore résilient aujourd'hui.
Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est une des caractéristiques du marché du travail, c'est que quand les choses se dégradent, ça va très rapidement. Mais je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul, et quand on a tous plus ou moins fait des études d'économie. Et donc, ce qui se passe sur les normalement en économie, c'est que il y a de la croissance. Enfin, les taux sont bas. Okay, donc il y a de la croissance, les entreprises s'endettent, il y a un peu de surchauffe, il y a de l'inflation, la banque centrale monte les taux, elle durcit les conditions financières, ça casse la croissance et l'inflation revient. Là, il y a quand même un élément qui est crucial, qui manque dans ce cycle habituel, c'est qu'on a, dans cette phase de hausse des taux, en fait, il manque toute la partie surchauffe et il manque toute la partie détérioration des bilans.
Il n'y a pas de déséquilibre.
Il n'y a pas de déséquilibre. Quand on regarde, notamment aux États-Unis, les bilans des entreprises, elles ont profité à fond des épisodes de taux très bas. Les ratios d'endettement sont à des niveaux qui sont très contenus. La charge de la dette est extrêmement faible. Donc toute cette partie qui est traditionnellement associée à un cycle de croissance, on ne l'a pas eu. Donc la phase de hausse des taux, en fait, et d'ailleurs ça nous a tous surpris, hein, parce qu'on est quand même sorti d'un cycle de hausse de taux qui a été extrêmement brutal.
Ah ouais.
Enfin, le plus brutal,
oui, oui,
je crois, d'ailleurs, depuis les années 80, sans impact quasiment sur la croissance. Et c'est vrai que c'était... on a tous eu du mal à comprendre.
Ah, c'était pas facile de faire ce call il y a 3 ans, oui.
Moi, je pense que l'explication fondamentale, ouais, elle vient du fait que les bilans des entreprises et le cycle de crédit, de surchauffe du crédit qu'on a habituellement, il s'est pas mis en place. Donc là, on a des conditions qui, notamment aux États-Unis, sont quand même encore restrictives. On peut débattre des conditions en Europe, mais... Aux États-Unis, encore, on est encore dans du restrictif. Pour l'instant, ça tient bien. On va basculer vers un assouplissement. Ça devrait quand même à peu près bien se passer.
D'accord. Donc, une Fed trop agressive pour vous, ce serait perturbant à ce stade.
Il me
ouais,
semble.
J'entends. Ouais, ouais. On me donnait un ratio aussi, parce que la question, effectivement, sur le marché du travail, que le marché du travail tienne bien, mais est-ce qu'on n'est pas proche d'un moment où les entreprises américaines, on sait qu'elles peuvent être très flexibles de ce point de vue-là, verraient leur marge un peu sous pression et se diraient, tiens, il faut que je dégraisse un petit peu, que je restructure mes coûts salariaux, notamment.
Ouais,
il y a un ratio très simple que je ne connaissais pas, mais qui est assez évident, c'est de regarder les coûts salariaux de l'entreprise par rapport aux ventes réalisées. Bon, bah, ce ratio, il est au plus bas aujourd'hui. Il n'y a pas de pression venant des salaires, en tout cas du point de vue de l'entreprise et des marges d'entreprise. En plus, il y a la productivité. Visiblement, les entreprises américaines ne sont pas au bord de licencier ou d'opérer des vagues de licenciements. Adil, comment vous regardez le cycle de baisse de taux et puisque ça change pour l'investisseur ou pas à ce stade, hein ?
Non, mais je partage tout ce que Florence a dit. Et effectivement, en fait, on est dans une situation où, parce qu'on entend beaucoup le mot récession, hein, ça fait 2 ans que je pense que toutes les semaines le mot récession revient, là encore plus, on ne croit pas au scénario de récession. Peut-être technique, pourquoi pas, en Europe et encore, ça aussi on n'y croit pas, aux États-Unis encore moins. Pour revenir sur l'emploi américain, on continue à recruter, ça continue à recruter, qu'on le veuille ou non. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de recruter autant qu'avant ? Bah, la réponse est non. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'on va aller en récession ? La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui les taux américains sont trop élevés par rapport, on va dire, au niveau de rentabilité, de marge qui sont dégagées par les entreprises américaines ? Oui, ça, il y a un consensus, c'est pour ça que la réserve fédérale américaine va baisser ses taux. Mon sentiment, et notre sentiment chez Schellscher, c'est qu'on aura une baisse graduelle des taux. Je pense que ça serait très dangereux d'avoir une baisse, on va dire, concaténée en 50, 75 points de base, ou que sais-je, en one shot. Si ça devait arriver, c'est que les chiffres sont très mauvais, et que là, on est clairement dans la récession. Et un accompagnement, finalement, avec des baisses graduelles, bah, c'est tout ce que tout le monde attend, à savoir le fameux soft landing.
D'accord.
Voilà.
Ça, c'est le mot que Jérôme Powell n'a pas prononcé à Jackson Hole. Hein.
Bah, je pense qu'il ne peut pas se permettre tant que rien n'est confirmé, rien n'est acté, rien n'est entériné. Voilà.
Et... Non, mais le mot graduel, c'est un mot que Jérôme Powell
non,
n'a
mais
pas.
Justement...
Voilà, c'est ça,
ouais,
d'accord.
Voilà.
Pas, parce qu'il souhaitait employer.
Bah, déjà, le 25 points de base, fallait quand même l'avoir. Voilà. Maintenant, il est là. La gradualité, tout dépend, encore une fois, des chiffres qui vont sortir. Et à part si Jérôme Powell a déjà les chiffres qui vont sortir dans 6 mois. Bah,
non.
C'est normal qu'ils ne puissent pas, on va dire, s'engager sur ça. Mais les marchés attendent ça. Et notre conviction, c'est que l'économie s'y prête.
Ouais.
Voilà. Il n'y a aucune raison d'aller trop vite. Bah, les résultats des entreprises américaines, à part Nvidia qui a surpris parce que le consensus était lui-même surpris, est-ce qu'il y a eu des chocs ? Fondamentalement, non.
J'ai discuté avec pas mal d'économistes qui sont venus, des quants, des fondamentaux. Enfin, le consensus est assez unanime sur les dernières émissions de Smart Bourse. À 3 mois... Le risque de récession US, il est, mais proche de zéro.
C'est ça qui est assez...
Est-ce que, voilà, est-ce que quand tous les économistes sont d'accord de cette manière-là sur un horizon de marché 3 mois, est-ce que ce n'est pas le moment de s'inquiéter, Jean-Jacques ?
Mais c'est vrai que j'étais assez d'accord. C'est vrai que sur les taux d'intérêt, 110 points de base, le risque paraissait asymétrique et ça paraît beaucoup.
Ça, c'est ce que le marché anticipe.
Voilà, sur les
d'ici
taux,
la fin de l'année,
beaucoup,
pour
voilà.
La Fed.
Donc,
d'accord.
Voilà, et plutôt l'idée aussi de 75 centimes. Alors, sur les économistes, alors, ce qu'il y a, c'est qu'une récession... Et un ralentissement, ça commence toujours pareil. On ne peut pas, en réalité, prévoir une récession.
D'accord.
C'est ce qui fait peur. Mais qu'il y ait de la nervosité maintenant, c'est assez normal parce que souvent, avant la première baisse de taux, quand on sait qu'on se projette et qu'il y a une bonne nouvelle devant soi, ça monte, c'est assez facile. Mais là, il y avait vraiment la conjonction de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y avait ça, Il y avait septembre où il y a une saisonnalité assez négative et d'autant plus négative quand il y a des élections derrière avec des programmes aussi marqués, aussi diversifiés. Et puis, il y avait un doute sur les statistiques. Ça fait, vous parliez il y a quelques temps, mais par exemple, les indicateurs ISM, les indicateurs PMI n'ont absolument pas fonctionné depuis des années.
Non.
Et même les indicateurs durs comme les créations d'emplois, il y a une révision qui a vraiment frappé les esprits. Donc, on arrive au milieu de tout ça en se disant, c'est toujours un peu la croisée des chemins. Parfois, c'est un peu faux, mais là, c'est vraiment le cas. Et on arrive en étant un peu incertain. Et finalement, ce qui se passe, c'est que sur une seule statistique, il y a eu en plus ce débouclage du carry trade qu'on ne pouvait pas anticiper. Et finalement, c'est plus la réaction du marché qui a été très forte avec ce mouvement de débouclement qui a fait que, pour justifier, on ne va pas dire c'est un truc technique, etc. Il faut bien trouver une solution. Et on dit, c'est parce que la question de la récession est posée.
D'accord.
Et pour moi, elle n'était pas plus posée ce mois-ci qu'elle l'était il y a quelques mois. C'est ça le point. Et donc maintenant, on se met à débattre. Et ce qui me semble, c'est que justement, c'est tous les arguments que vous donniez, théoriquement, sur le papier, si on regarde les boîtes, elles avaient déjà eu du mal à embaucher. Donc pourquoi elles licencieraient? Elles ont des marges importantes parce qu'il y a une productivité forte. Et donc, elles arrivent à maintenir. C'est-à-dire qu'il y a des salaires plus importants que l'inflation. Alors, on arrive aussi à un point où, comme il n'y a plus d'épargne, c'est pour ça que Powell a dit que c'est important aussi.
Oui.
On parle de la consommation.
Oui. Là, il n'y a plus d'amortisseurs, il n'y a plus de filet de sécurité. Voilà. Donc, le moins de dérapage sur le marché du travail peut très vite se faire ressentir.
Finalement,
bien sûr.
Comme il y a des salaires qui augmentent plus vite que l'inflation, ça donne du pouvoir d'achat. Et en même temps, comme il y a une productivité, ces salaires qu'ils payent de manière plus élevée, les entreprises arrivent à passer les coûts. Donc sur le papier, il ne devrait pas y avoir en effet de récession. Mais donc il peut y avoir quelques semaines d'agitation. Mais il nous semble, que le scénario récessif est vraiment exagéré. Et peut-être quelques statistiques pourront le démontrer. Mais il faut attendre le mois prochain pour avoir ces éléments-là.
Ouais. Bon, 25 points de base pour la réserve fédérale américaine.
C'est mieux que 50, je partage ça.
Ouais. D'accord,
c'est autorégulateur. Oui. Ce qui s'est passé il y a un mois aurait pu provoquer, je veux dire, quand il y a de tels mouvements, il peut y avoir un hedge qui s'explose, peut y avoir des trucs.
Oui.
Et là, la psychologie des ménages, des consommateurs change, et le truc pouvait partir à la cave. On ne sait jamais, c'était pas écrit d'avance. Mais maintenant, je trouve qu'on a un peu plus balisé le terrain.
Pour la Banque Centrale Européenne, où est-ce que vous mettez les enjeux? Suivre la baisse de l'inflation et suivre la Fed, c'est la mission.
Sur le papier, c'est pas qu'elle est beyond the curve, c'est qu'elle aurait... La croissance étant totalement atone en Europe, on devrait avoir des taux théoriquement plus bas, mais elle pouvait pas les baisser sans la Fed, parce que ça affaiblit l'euro. Et ça voudrait dire de l'inflation à porter plus cher.
D'accord.
Et donc, ça veut dire que ça a fait remonter l'inflation et c'est contraire à son mandat. Donc, elle attendait que d'ailleurs, elle a intervenu en premier, elle interdit que la Fed se fasse. Et maintenant,
ça a fait plutôt monter l'euro.
Ça se fera. Oui, mais ça se fera de manière concomitante.
Conjointe.
Les deux.
D'accord.
Les deux. Donc, c'est non. Comme ça. Sinon, elle ne pouvait pas le faire toute seule. Et maintenant, je pense qu'elle le fera de manière synchronisée.
Ouais. Mmh. Côté BCE, comment vous regardez les choses, particulièrement Florence, c'est vrai que le discours de Jerome Powell à Jackson Hole donne l'idée, c'est structurellement, la Fed est beaucoup plus agile, elle est capable de changer effectivement de fonction de réaction très vite si les conditions se détériorent, etc. Ça s'est bien ressenti dans le discours d'un Jerome Powell à Jackson Hole. Du côté de la BCE, on a toujours un biais structurel beaucoup plus prudent, plus hawkish, et c'est vrai que quand on regarde un peu l'état de la zone euro, on se demande si est-ce qu'il ne serait pas de bon ton quand même que la BCE soit peut-être en capacité d'accélérer, si nécessaire, à un moment, son rythme de baisse de taux, quoi.
Moi, je pense que la BCE, elle peut accélérer si, effectivement, on a une dégradation marquée des conditions de croissance. Mais, comme ça a été dit, on a une croissance qui est morose, certes.
Ouais, mais l'inflation baisse vite, quand même,
l'inflation
en zone euro.
L'inflation baisse vite, mais il y a quand même... Je pense qu'un des risques majeurs, ça serait de revenir dans un environnement de taux zéro. Je veux dire, les taux zéro, c'est quand même totalement contre-intuitif, innaturel, ça génère des biais massifs dans l'allocation du capital. Donc la BCE s'est quand même battue pendant des années, et d'ailleurs elle n'y arrivait pas quand on était en risque déflationniste, pour faire remonter l'inflation et sortir de cette situation qui était quand même extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte majeure. Je pense qu'il faut qu'ils se conservent des marges de manœuvre. Donc ils n'ont aucun intérêt à baisser les taux trop rapidement et de manière trop significative. Et d'ailleurs, quand on regarde, il y a une enquête, moi, de la Commission européenne que j'aime bien, qui regarde et qui demande aux entreprises quels sont les facteurs qui limitent la production. Donc quand vous regardez cette enquête, aujourd'hui, l'essentiel des contraintes vient de la demande. Donc 40% des entreprises vous disent, moi, ce qui limite ma production, pour 40%, c'est la demande. Pour 20%, je crois, c'est la capacité à embaucher. Et les conditions financières, 5% seulement. 5%.
Donc, d'accord.
Bon, alors évidemment, il y a
un lien entre la demande et les conditions financières,
oui, mais
Florence.
Bien sûr. Et puis il y a des secteurs comme l'immobilier, évidemment.
Mais c'est intéressant, parce que déjà, c'est des résultats d'enquête qui sont inverses de ce qu'on a vécu pendant la période Covid, post-Covid, où c'était l'offre qui manquait, l'offre qui était contrainte, etc. Là, on revient à quelque chose de plus habituel pour la zone euro, finalement.
Habituel, et donc, évidemment, bien sûr, je trouve que c'est intéressant, et bien sûr que les conditions financières jouent sur la demande aussi, mais il y a quand même une situation, on peut parler de l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui, c'est le maillon faible entre guillemets de la zone euro. Et on parlait des États-Unis, mais on est quand même dans une forme de miroir entre l'Europe, les États-Unis. Le problème, c'est le commerce extérieur. On est extrêmement dépendant du commerce extérieur, donc problématique chinoise, problématique de ralentissement de la croissance mondiale et problématique protectionniste. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on regarde. Bien sûr, le niveau des taux d'intérêt a un rôle. Je veux dire que la BCE, elle baisse de 25 ou de 50. Je veux dire, c'est pas ça qui va changer la face de croissance de l'économie européenne, il me semble. Donc, c'est bien de revenir. On a besoin d'avoir des taux d'intérêt qui sont en territoire
neutralisés.
Neutre, voire légèrement incommodant, quand même, je pense.
Voire légèrement incommodant.
Oui, moi, je pense qu'on a besoin quand même d'un léger soutien, mais il ne faut pas que la BCE aille trop vite, il faut qu'elle en garde sous le pied si besoin.
Oui, non, mais intéressant. Vous voyez à l'arrivée quand même un taux légèrement accommodant, enfin un taux d'arrivée pour la BCE qui doit être au minimum neutre, quoi.
Ah bah, je pense que le taux cible 2025, on va osciller, autour de 2,25.
Ouais, voilà, d'accord.
2,25, c'est en zone accommodante.
Non, parce que j'écoutais Isabelle Schnabel, elle dit dès que le taux directeur, dès qu'on commencera à s'approcher de la limite haute des estimations du taux neutre en zone euro, il faudra déjà tout de suite commencer à regarder ce qui se passe, quoi. Non, mais c'est les nuances qui peuvent s'exercer aussi au sein de la Banque Centrale Européenne. Sur la BCE, qu'est-ce que vous dites spécifiquement, Adil
Moi, je suis un peu surpris.
Ah.
En fait, quand on regarde un petit peu les chiffres d'inflation, par exemple, moi, il y a un chiffre qui m'a surpris, c'est l'inflation allemande. Si je ne me trompe pas, 1,9, je crois.
Alors, chez eux, les statistiques disent 1,9.
Bon, après, 1,9, c'est 2.
Mais disons, c'est 2, quoi.
Bref, moi, j'aime bien. Enfin, en dessous de 2, c'est encore plus...
Vous aimez bien
parce que c'est encore plus sympathique et emblématique.
Proche, mais inférieur à 2. C'est parfait.
Il y a ça. Donc, et après, indépendamment de l'Allemagne, il y a quand même globalement de la désinflation. Elle est là. OK. Les renégociations salariales.
Ouais.
Voilà. Bah, ça décroît.
Bah oui.
Voilà, ça va beaucoup moins vite. Donc, il y a quand même de la désinflation qui est là. La croissance européenne, oui, elle tient. Mais elle est quand même beaucoup plus fragile que la croissance américaine.
Oui.
Le moteur, la locomotive européenne, à savoir l'Allemagne, il y a un sujet, exportateur, oui, et encore beaucoup plus long terme, dans un monde qui se déglobalise, on pourra y revenir, etc., avec tous les impacts que ça peut avoir. Et le dernier sujet qui est quand même problématique, il y a l'Europe, c'est plusieurs États. Les États-Unis, c'est un seul pays. On n'arrive pas à se mettre d'accord en Europe. Donc, moi, je pense que dans ces conditions, notre sentiment, c'est que la BCE a matière à aller un peu plus vite que la Fed. Il ne faut pas aller trop vite. Mais encore une fois, et je partage, Florence, sur le taux d'atterrissage, 2,25 ou 2,26 ou 2,27. On peut chipoter, je pense, jusqu'à l'infini. Mais ça, je pense qu'il y a un consensus autour de ça. Les taux zéro, c'est fini. De toute façon, c'était une aberration. On parle quoi qu'il en coûte, l'argent infini. Voilà.
Mais à force de trop attendre, est-ce qu'on ne crée pas aussi le risque déflationniste de demain, quoi ? C'est un peu l'idée.
Il y a déjà une baisse de la BCE. A priori, il y en a deux autres d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il n'en faudrait pas 60... Parce qu'il ne faudrait pas 75 points de base d'ici la fin de l'année pour prendre le pas par rapport aussi à la Fed ? Parce que là, encore une fois, les économies sont différentes et les risques en forward, quand on projette de l'économie européenne par rapport au reste du monde, ils sont totalement différents dans un système politique complexe.
Mmh.
Voilà, ça, c'est un peu la lecture. Maintenant, fondamentalement, ce qui va se passer, notre sentiment, c'est 25 et 25. Voilà.
D'accord.
Mais on aimerait bien
que... Il n'y aura pas de prise
voilà.
Et c'est un peu de risque.
Et le fait d'avoir ça, ça rajoutera de la volatilité en cas de chiffre. Même à un micronième de point de base en dessous des attentes.
Mmh.
C'est ça le sujet.
Ouais. Bon, en Allemagne, ils se réveillent un peu, les patrons quand même. PDG de Volkswagen, nous ne sommes plus compétitifs. PDG de Deutsche Bank, les Allemands ne travaillent pas assez. C'est intéressant d'ailleurs l'affaire Volkswagen, fermer une ou deux usines en Allemagne. Alors Bloomberg compile aujourd'hui avec des données d'experts le nombre d'usines automobiles qui tournent un peu à vide en Europe. Il y en a quand même beaucoup, hein, c'est plusieurs dizaines. C'est-à-dire déjà rien que se dire qu'il y a des surcapacités dans un secteur comme l'automobile qui pèse pas loin de 10% du PIB de l'Union européenne, normalement ça limite un peu les risques à la hausse sur l'inflation. Enfin, je veux dire, pour ceux qui craignent l'inflation salariale, les tours d'inflation dans les salaires, etc., je pense que les négociations, elles ne vont pas se dérouler dans la même ambiance qu'il y a deux ans, de ce point de vue-là.
Je partage totalement, et c'est pour ça qu'en gros, les chiffres qu'on a, moi je pense qu'ils sont encore une fois en deçà des chiffres qu'on va avoir et qu'on devrait avoir. Ne serait-ce qu'en intégrant, justement, ces surcapacités.
C'est ça.
Encore une fois, ça met du temps à se matérialiser.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a un effet lag,
ouais,
c'est
ouais.
normal.
Ouais. Bon.
Madame Stabel, elle raisonne comme si l'Allemagne était dans la même situation qu'il y a quelques années, et elle ne l'est plus. Donc le seul avantage de ce que vit l'Allemagne, c'est peut-être de rapprocher politiquement. Parce qu'on parle du point de vue des politiques monétaires, mais c'est peut-être compliqué. Ils sont en retard. Enfin, c'est pas qu'ils sont en retard, c'est que... d'ailleurs, il y a un élément nouveau, c'est qu'avant, on disait « jamais plus on reviendrait à la situation de taux zéro ». Mais moi, je ne l'exclus pas totalement. C'est ça le paradoxe, parce que justement par rapport à ce qu'on dit là, c'est pas totalement impossible. On était tous, je pense, surpondérés sur l'oblique, on avait en gros ces niveaux-là.
Est-ce que la démographie a changé en zone euro ? Est-ce que la productivité a changé en zone euro ?
Non, il n'y a pas de grand chose qui ont changé, donc voilà, c'est pas totalement impossible. Mais c'est du point de vue budgétaire que là, et politique, que l'accord ne s'est jamais fait. Et là, c'est très compliqué. Mais justement, peut-être que l'Allemagne, qui auparavant était contre des mesures plus protectionnistes, parce qu'elle avait tout intérêt, elle, à continuer à exporter, etc., son modèle étant tellement remis en cause, peut-être qu'on peut progresser un peu du point de vue budgétaire. Et ça serait l'élément important. Pour l'instant, il n'y a pas d'indice. Mais
sur le secteur auto en tant que tel, là, oui. Parce que ça a été quand même pendant 3-4 mois au début de cette année, je me souviens, un secteur leader en Europe. On vivait avec encore sur les restes du Covid. Les marges auto étaient hyper élevées, etc. En quelques mois, le vent a tourné de manière spectaculaire.
Parce qu'il y a une intégration, il y a des chiffres, il y a une intégration verticale au niveau des entreprises automobiles chinoises.
Bien sûr.
Un coût de revient, alors on dit 15% moins cher que Tesla, qui lui-même est moins cher que les entreprises européennes. On l'a vu avec les batteries électriques, c'est très compliqué.
C'était écrit, mais moi, c'est la vitesse à laquelle ça a tourné, sur le marché boursier notamment, qui a été
donc
spectaculaire.
Ça peut peut-être frapper les esprits, engendrer peut-être des mesures, mettre des taxes plus fortes un peu à la manière américaine, etc., pour arriver à avoir quelque chose de protectionniste. Puis un marché unifié, parce que tant qu'on lutte par rapport à les États-Unis où ils sont 6 fois plus nombreux que nous en France, ou qu'on lutte avec la Chine, c'est très difficile. Et la seule solution, c'est pas qu'on était naïf, on dit toujours on a été naïf par rapport à Chine, mais c'est qu'on avait des intérêts contradictoires. Peut-être que là, on a des intérêts qui peuvent...
Et la réponse, c'est le protectionnisme. Enfin,
ça
fait 15 ans que je suis, que j'observe la vie économique, marchés. J'ai rarement entendu des investisseurs ou des gens venir me dire la bonne réponse, c'est le protectionnisme.
C'est comme dans le conte de Cendrillon. Vous savez, pour qu'elle grandisse, il y a toujours un petit moment où il faut être en réalité protégé. On ne le dit jamais. Mais en réalité, il y a toujours une petite protection. Et ensuite, quand on est grand et adulte, on va dans le monde.
Mais avant d'aller dans le monde... Question de dosage,
Avant d'aller dans le monde et se battre, faut un petit dosage de protection. Enfin, ou au moins, plus de la relance, plus etc. Mais les finances, etc. D'où peut-être des taux d'intérêt, quand on parlait de taux cibles, etc., qui mériteraient peut-être d'avoir des taux d'intérêt réels négatifs pour justement parler de tous
soutenir
ces financements nécessaires.
Ces défis,
Voilà, mais tout ça se coordonne. Moi, je pensais que la Banque Centrale Européenne et les États étaient plus coordonnés que ce que je vois. Vous voyez, au moment du Covid, je pensais vraiment qu'il y avait une révolution qui s'était faite. Et on s'aperçoit que...
Ah, il y a eu ce moment presque hamiltonien, comme on le décrivait.
Voilà.
Mais c'est le drame de l'Europe, c'est qu'on est capable, dans des moments adverses, de faire ces efforts-là, mais ça reste à chaque fois une parenthèse.
Voilà, exactement.
À ce titre-là, à ces égards, comment le rapport Draghi résonne à vos oreilles Florence.
Je voulais intervenir sur le sujet parce qu'en fait là on parle de politique monétaire, donc évidemment si on a des taux qui sont bas et des taux réels négatifs, ça peut aider sur la partie financement, mais en fait toutes les problématiques qu'on évoque, c'est des problématiques qui sont structurelles. L'Allemagne, pourquoi est-ce qu'elle souffre? Évidemment, il y a le problème chinois, il y a le commerce extérieur, mais l'Allemagne, elle a construit son économie sur l'accès à de l'énergie pas chère. Ça s'est terminé. Donc il y a l'accès à l'énergie pas chère. Il y a le rapport Draghi, donc moi je l'ai pas lu. Hein, il fait 400 pages, mais évidemment, je vais le lire.
Il a écrit lui-même le résumé, je crois. Ça se lit assez bien. Il y a un résumé qui est fait par Draghi lui-même.
Honnêtement, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. parce qu'il met quand même le doigt sur des problèmes qui sont des problèmes fondamentaux en Europe. Donc, la réglementation qui est quand même probablement excessive, dont parfois on ne sait même plus à quoi elle sert, qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Il y a un très bon article dans le Financial Times d'il y a deux jours sur CSRD. Bon, je veux dire... C'est quand même
donc les règles de reporting compliqué. Des entreprises sur les enjeux ESG.
Exact. Il y a ça. Il y a la partie réglementaire. On parlait des banques. On parlait de l'investissement, le coût en capital, assureur. Bon, si on veut financer la transition, bon, tout ça, c'est des problèmes qui nous rendent la vie plus difficile. Il y a toute la partie aussi que moi je trouvais extrêmement intéressante sur comment est-ce qu'on dirige l'épargne des particuliers vers justement les investissements. Il parle de 800 milliards par an qui sont nécessaires. Donc là, effectivement, il y a l'union des marchés des capitaux. Donc là, on peut faire le lien avec Commerzbank
et UniCredit. Oui, bien sûr. Oui.
Et il y a comment investir de manière efficace l'épargne des particuliers. C'est-à-dire qu'on a des taux d'épargne en Europe qui sont plus élevés qu'aux États-Unis, mais qui sont, en fait, l'épargne des Français...
Pas investis, qui sont pour pas là où il faudrait, quand on est économiste, et, évidemment.
Et donc, pour les épargnants, évidemment, c'est pas la bonne chose à faire, parce qu'on a envie de mettre son capital là où il est rentable, et pour l'économie et le financement des entreprises, il y a un problème d'appariement qui fonctionne pas bien. Et il évoque, notamment dans ce rapport, toute la thématique fonds de pension, financement des retraites, le serpent de mer des retraites par capitalisation. Et donc ça, c'est effectivement des sujets qu'il faut qu'on mette sur la table. Donc on passe beaucoup de temps à parler des baisses de taux de la BCE. Bien sûr que c'est important, mais les sujets de fond de l'économie européenne, c'est plutôt ces thématiques-là.
Intéressant, parce que je résume les 400 pages que je n'ai pas lues non plus, mais il nous parle d'innovation et de prise de risque. Enfin, je veux dire, c'est assez nouveau dans le logiciel européen. Il y avait eu, je crois, une dizaine d'années, alors je ne sais plus si c'était l'agenda de Lisbonne ou de Madrid, on parlait de l'Europe de l'innovation, c'était l'Europe des nouvelles technologies, etc. Il y avait eu ce moment, qui est resté lettre morte. Mais voilà, aujourd'hui, l'Europe doit prendre des risques. Pour prendre des risques, il faut desserrer un peu les verrous de la régulation ici et là. Et puis, l'innovation, ça se finance par tout le monde, quoi. Voilà.
Je peux vous donner des exemples. On a investi notamment en Crédit Agricole Assurance. On a un projet sociétal qui est assez puissant et on investit massivement dans tout ce qui est transition énergétique. On a quasiment 5 milliards en ENR et on a investi notamment il y a un an et demi dans un fonds hydrogène pour 100 millions. Donc c'est une thématique qu'on regarde. Et je me souviens à l'époque, quand on à la présentation du fonds, on échangeait donc avec les entreprises et c'était fascinant parce qu'ils nous disaient mais c'est une thématique qui est naissante en Europe, qu'il faut absolument aider pour qu'elle démarre. Il n'y a pas encore de marché, mais on a déjà des régulations qui arrivent. Voyez. Et donc, c'est ce genre d'exemple-là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'hydrogène, ça démarre, il y a l'IRA. Si le marché grossit et qu'il faut réguler, bien sûr, on régule. Mais là, la régulation en Europe vient même avant.
La logique est complètement inverse.
La logique est complètement inverse.
Totalement. Bon, Adil, sur ces questions, moi, je veux bien qu'on parle un peu des marchés, quand même. Voilà. Non, mais on l'a évoqué rapidement avec Jean-Jacques, mais c'est quoi les grands enseignements de l'épisode 5 août ? Est-ce que ce qu'on a vécu la semaine dernière, est-ce que c'est des répliques de phénomènes techniques aussi, peut-être, dans ces marchés ? Ou est-ce qu'il y a des vrais changements profonds sur la perception macro, peut-être, demain ? On voit quand même des rotations se mettre en place sur les marchés actions. Qu'est-ce qui se passe si on commence à baisser les taux de marché directeur, pour des gens qui ont été très bien rémunérés sur du cash pendant plusieurs trimestres maintenant, etc. Enfin, ces questions-là sont pas nouvelles, mais elles arrivent là.
Non, mais
pas les réponses.
Les réponses
maintenant, quoi.
Elles vont arriver. Elles vont arriver. En fait, il y a. Bon, je vais essayer d'être très synthétique. Je sais pas si je vais arriver, mais on va essayer.
Un peu de temps.
Un petit peu. Non, mais globalement. Enfin. Il y a un élément qui est clé, je pense, et c'est une stratégie et on va dire un fondement que je pousse depuis un certain nombre de mois, voire d'années, c'est que les cours vont se normaliser, vont se repentifier. Maintenant, c'est acté. Voilà, on est positif aux US, on est positif en Allemagne, légèrement. Okay.
C'est normal. Enfin, zéro, c'est une normalisation. Pour vous, c'est quoi c'est quoi une vraie pente de courbe de taux? Non, mais pour ceux qui ont oublié ce que c'était, une vraie pente de courbe de taux, 2 ans, 10 ans US.
Moi, ce que j'ai appris, j'ai fait un peu de maths, je pense que tout le monde autour de la table est déco. Il fut un temps. On va dire qu'avoir un 2-10, un écart entre le 10 ans et le 2 ans dans une courbe, dans une économie normale, entre 40 et 60 points de base, il n'y a rien de choquant et c'est même sain pour tout le monde et pour les générations futures et pour les épargnants et pour les entreprises. Bref, tout le monde est content. Ah bien. Il s'avère que c'est un monde qu'on a peut-être largement oublié ou peut-être que certains n'ont jamais vu.
Oui. Bon,
voilà. Donc, les pentes se renormalisent. La partie courte est très connectée à l'inflation et pour moi, la partie longue, on va dire longue à partir de 7 ans jusqu'à et au-delà, pour moi aujourd'hui, ce que ça matérialise, ce n'est pas la croissance future. Ça, c'est ma conviction. C'est le besoin de financement additionnel à venir. Dans un monde où il faut déglobaliser, il faut financer la partie renouvelable, il faut financer encore une fois le social, qu'on le veuille ou non, mais depuis la crise du Covid, il y a un sujet quand même majeur autour de ça et ça a besoin. Enfin, il y a besoin.
Ça reflète la masse des investissements qui nous attendent demain.
Voilà. La prime de terme, c'est la prime du besoin en financement à venir. Et c'est quelque chose de normal. Sauf que d'une part, on a les États qui ont ce besoin-là, qui ont besoin de financer. Et forcément, les banques centrales, elles veulent, encore une fois, juguler l'inflation. Et c'est quelque chose de normal. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Mm-hmm. Donc, les pentes, aujourd'hui, c'est quelque chose d'acté. Et pour moi, on est qu'au début. Ça ne va pas se faire de façon linéaire, d'accord, mais on est au début.
Des stratégies de rempotification, ça reste valable pour vous aujourd'hui.
Et sur l'obligataire, pour moi, ça reste encore très intéressant. Et ce n'est pas parce qu'on en fait beaucoup chez Schellscher que je le dis. Voilà. Je suis persuadé que c'est encore un marché hyper attractif. Ouais. Que ce soit l'investment grade, le high yield ou les taux, mais il faut aller chercher au plus la partie courte, la partie 3 ans, 4 ans, pour justement éviter cette repentification ou même en bénéficier. Voilà, ça c'est quelque chose d'essentiel.
Les actions, pas trop de duration, il n'y a pas...
Beaucoup de duration, mais sur le court, encore
d'accord,
une fois. Okay. Il y a des techniques qui permettent
oui, je comprends,
de
il y a des stratégies pour ça. Okay.
Plus l'infini en duration, mais sur du 6 mois, c'est faisable. Voilà, ça c'est quelque chose d'essentiel et pour moi c'est tendanciel. Voilà. C'est pas linéaire, il faut être tactique, voilà. Mais ça, on va dire, c'est notre métier. Quelque chose de fondamental. Ensuite, quand on regarde, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la géopolitique qui est là. L'Ukraine, la Russie, c'est pas fini. Le Moyen-Orient, c'est pas fini. Voilà, il se passe quand même un certain nombre de choses. Ça, c'est de la vol. Voilà. On l'avait oublié sur la VIX et la V2X, les indices de volatilité equity, mais ça peut arriver très très rapidement. Et au-delà de la vol, le carry trade, le débouclage des stratégies de carry trade au Japon, voilà, avec le yen et donc la banque centrale du Japon qui a augmenté ses taux, ça montre quand même que dans ce marché, il y a quand même un petit peu de levier à droite et à gauche. Un petit peu beaucoup. Et il ne faut pas sous-estimer ça.
Ouais.
Voilà. Ça, encore une fois, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand on voit aussi les repositionnements des fameux CTA et les fonds systématiques sur les fonds actions quand les vols baissent, aujourd'hui, ils sont repassés au top. Ça, c'est quelque chose aussi qui, à un moment donné, quand il y a un mauvais chiffre, ça va, on va dire, rebaisser de façon significative. Mmh. Et pour finir, sur le marché actions, on est encore positif depuis le début de l'année. Oui, le marché actions, l'Europe, il y a une prime de risque plus élevée, mais forcément, il y a plus de risques. Les US sont chers, oui, mais in fine, il faut faire du picking sectoriel. Nous, ce qu'on aime beaucoup aujourd'hui.
Mais on voit d'ailleurs un marché actions qui s'élargit, c'est ce que je comprends. Le marché US est cher, si on enlève les 7 magnifiques, il est tout de suite un peu moins cher.
Et les meilleurs performances, ce ne sont pas les 7 magnifiques sur les derniers mois, c'est la grande nouveauté.
Voilà, c'est ça.
C'est magnifique.
D'accord. Donc c'est plutôt dans cette partie-là du marché. Mais c'est dans cette partie-là du marché que l'univers d'investissement vous paraît le plus intéressant aujourd'hui, alors.
C'est pas qu'on a un biais, mais après, c'est peut-être l'approche obligataire, très value, etc.
Ouais, j'entends.
Et connecté au taux.
Ouais.
Au marché actuel.
Ok, très clair. Jean-Jacques, qu'est-ce qui vous anime là? Comment vous avez géré l'été et puis la rentrée du coup?
Donc, ce que je disais, on en discute un peu, c'est qu'on est revenu à la neutralité, ce qui nous semblait indispensable, plus une rotation défensive. Mais c'est finalement assez classique. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, c'est assez binaire. C'est soit il y a juste un ralentissement et après cette période de quelques semaines, mois qu'on est en train de vivre, le marché repart à la hausse. Soit il y a récession, et là, la baisse des résultats l'emporte sur le potentiel de baisse des taux et le marché décroche.
Ça purge.
Donc c'est aussi basique que ça. Nous, on milite pour la première solution, la sortie par le haut. Par contre, je pense que ce qui sera assez intéressant, c'est justement, je pense que ces dossiers tech qu'on aime par moment ou pas sont en train de bien déréter avec l'histoire finalement de la sortie. Mais pendant ce temps-là, les résultats progressent tellement qu'ils retrouvent de l'intérêt. Et je pense qu'après cette phase de croissance défensive, il faudra revenir en fin d'année sur la tech.
D'accord.
Et là, je pense qu'il y a vraiment du potentiel de nouveau sur les valeurs tech, parce que souvent, c'est au moment du dernier trimestre que les résultats sont le plus importants.
Donc, vous avez dans le radar l'idée de reprendre des positions sur ces grandes valeurs technologiques qui ont vu leur valorisation un peu réduite.
Là, il y avait peut-être quelques déceptions par rapport à Blackwell, etc. Mais il peut y avoir vraiment de nouveau des nouvelles fortes. Et puis, il y a un dossier qui se traite à 30 fois, mais c'est... C'est rien. Parce que les gens, après, ils disent « Ah bah oui, ça se paye tant de fois, finalement, les ventes, etc. » Mais
ça a pu se payer 60, Nvidia.
Mais oui, bien sûr, mais il y a des marges
compliquées à mesurer, d'ailleurs.
Il y a des marges tellement élevées.
Donc, c'est intéressant votre point, parce que je me dis, si on est dans l'idée que les baisses de taux vont accompagner le cycle, prolonger le cycle, etc., je suis un peu étonné de voir quand même tout de suite un marché action très défensif. Quoi. C'est la santé, c'est les telcos, c'est vraiment des proxy bonds. Oui, je ne vois pas un marché action très cyclique, très risk-on sur le cycle en tout cas.
Bah, disons que, parce qu'il faut couper la part en deux, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, justement, ça sera intéressant d'être sur le cyclique. Là, il se dit quand même qu'il y a une phase de ralentissement et je veux dire,
ce qui est
beaucoup plus risque-rendement, okay. Et ce qui après devrait à la fois être des valeurs défensives au cas où on se trompe sur le scénario et qui en même temps devraient bénéficier de la baisse des taux, même si là il n'a pas fait, ce sont les valeurs tech justement qui cochent deux cases.
Ah ouais.
Donc c'est pour ça que là, avec finalement le retour un peu en termes de valorisation, ça sera de nouveau, il nous semble.
Si on arrête de se faire peur avec la récession, c'est plutôt la partie cyclique ou tech
une croissance un peu atone, c'est des valeurs qui seront jugées de manière défensive. Donc on part d'une croissance défensive à une croissance un peu moins défensive avec la tech par la suite.
Mmh. Florence, ben voilà, comment. Alors, vous avez accès à un nombre de classes d'actifs innombrables, mais je veux dire, c'est quoi la philosophie quand on gère un portefeuille d'investissement pour un assureur et un des plus gros, le plus gros en France aujourd'hui? Puis, l'analyse que vous avez faite chez Crédit Agricole Assurance de ce qui s'est passé cet été, on revenait rapidement sur les positions de carré, etc. Est-ce qu'on a moyen de savoir si ce levier, il est quand même bien rabaissé, ou est-ce qu'il y a encore un risque? Je sais pas, la BOJ, je crois, se réunit la semaine prochaine. Si jamais la Fed venait à un moment à faire 50, qu'est-ce que ça peut impliquer sur le dollar yen, etc. Et est-ce qu'il y a un risque de repartir pour un tour sur ces questions de levier, par exemple?
Oui, alors peut-être pour répondre un peu sur le positionnement, déjà. C'est vrai que côté assureur, nous, on est dans une logique de rendement. Donc l'année, pour nous, elle était idéale, parce que sur les taux, on a quand même eu des opportunités de déploiement qu'on n'avait pas vues depuis longtemps.
Mais des générations.
Pour l'assureur, l'environnement, il est formidable. Donc, sur les taux, évidemment, on a fait beaucoup de choses. Sur la partie, ce qu'on appelle, nous, diversification, donc tout ce qui est hors obligataire, notamment les actions et toute la partie private equity. Sur les actions cotées, la vision, c'est on est à la cible. On n'a pas vraiment de raison d'aller beaucoup plus loin de manière agressive sur nos allocations, parce que justement, on arrive à générer du rendement sur la partie obligataire. En revanche, et là, je reviens au mois d'août, quand on a des points d'entrée comme ça, qui pour nous étaient des points d'entrée évidents, évidemment qu'on va accélérer le déploiement. D'accord. Donc on est plutôt dans une logique qui est un peu by the dip.
Opportuniste de ce point de vue-là. D'accord.
Opportuniste.
D'accord.
Donc opportuniste sur des valos qui, pour le coup, étaient soudainement à nouveau attractives. Effectivement, et notamment aux États-Unis, sur une logique un peu plus de diffusion du rallye. On a déjà un stock de valeurs américaines élargir sur des indices équipondérés ou faire un peu de picking. Effectivement, ça fait beaucoup de sens. Mais on n'a pas de crainte majeure sur notre portefeuille. Donc, côté taux, on a beaucoup déployé. Partie action, on est à la cible et on est opportuniste sur les points bas. Et les classes d'actifs qui continuent à rester intéressantes pour nous, c'est toute la partie dette privée.
Gros boom de la dette privée. Alors peut-être pas pour des instits, mais en tout cas dans l'univers hors instit, oui, il y a un gros push dette privée effectivement depuis 1 ou 2 ans. Mais ça reste pour vous des segments d'investissement intéressants.
La partie notamment unitranche, on déploie. Et puis le private equity, on a des flux qui sont très réguliers vers une classe d'actifs qui en fait a des rendements qui sont stables et très intéressants dans le temps.
Mais le non-coté, est-ce que c'est un poids qui grossit encore dans l'allocation globale que vous supervisez, Florence? Ou est-ce que, en termes de poids, encore une fois, est-ce que c'est une poche que vous travaillez, mais est-ce que ça reste poids est fixé
Chez l'assureur, les mouvements prennent du temps, mais c'est une poche qui effectivement grossit.
Grossit encore.
D'accord. Et c'est vrai qu'avec la remontée des taux, on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu vraiment qu'on raisonne en termes de primes de risque. En disant, les taux étaient à zéro, donc c'était un peu, on achète tout, entre guillemets. Quand les taux remontent, il faut qu'on soit extrêmement sélectif sur les investissements qui sont davantage risqués. Et c'est exactement la prime de lecture qu'on applique sur tous nos actifs de diversification. Donc on a été plus sélectif sur tout ce qu'on faisait, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à jouer.
Je comprends.
Ouais, parce que, je veux dire, nous, notre objectif, c'est de servir des rendements pour nos assurés. Donc, évidemment, les taux montent, mais il faut qu'on continue à délivrer par ailleurs.
C'est trop tôt pour le jouer, mais il faudra quand même se souvenir de tous ces comptes à terme. Alors là, vous parlez au niveau des assureurs, qui ont existé, tout ce monétaire qui a
été déversé. Où va aller
là, c'est trop tôt pour jouer. Ouais. Il y a un niveau, un seuil à un moment donné.
C'est combien de baisses de, à partir c'est de pas. Combien de baisses de taux, on voit l'argent sortir du cash.
La psychologie, les gens changeront. Les gens diront, ça rapporte pas grand-chose.
Ça a déjà commencé à sortir.
Et peut-être qu'on sera de nouveau dans un résidents alternatifs.
Ça a commencé à sortir, vous dites.
J'ai vu des flux, oui. J'ai vu des statistiques.
Et ça peut aller où alors?
Dans un fonds diversifié.
Comme
dans
un obligataire, etc.
Non, mais en anticipation, encore une fois, en anticipation sur l'investment grade, un petit peu plus long, 2 ans, 3 ans.
Ça. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florence Barjou, Crédit Agricole Assurance, Adil Amor, Shell Surprince Gestion et Jean-Jacques Friedman, Vega IM.